Ils ont 5, 7, 10 ou 17 ans, ils ne vont donc pas voter, mais ils ont déjà tous, à des degrés divers, une conscience politique. Certains même savent quel bulletin ils iraient mettre dans l'urne s'ils le pouvaient. Parents ou grands-parents, nous sommes souvent amenés à répondre à des questions délicates. Eddy, c'est quoi la démocratie? Eddy, c'est quoi un député? Eddy, c'est quoi la différence entre la gauche et la droite? Futurs citoyens, futurs électeurs, c'est essentiel de les sensibiliser. Mais une fois qu'on a dit ça, comment fait-on? Parce que c'est bien d'avoir de belles idées, mais comment les mettre en application? Comment raconter la République à un bambin de 5 ans? Que dire à celui qui en a 13? Et comment comprendre le rejet des valeurs auxquelles on croit de celui qui en a 17? Bref, comment parler politique aux enfants sans pour autant leur imposer nos choix? On en parle ce matin et pendant une heure.
France Inter, grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Allez, debout, debout, Elliot.
Oh, papa, je commence à 10h ce matin.
Oui, je sais. Eh ben justement, comme ça, on a le temps d'aller à la mairie pour t'inscrire pour voter.
Ouais, même pas en rêve.
Mais Elliot, c'est important de voter. Et c'est beau. Tu vois, moi, la première fois que j'ai voté, c'était en 88. J'avais à peine 18 ans. Ben, je suis devenu un adulte ce jour-là.
Parce que toi, t'es devenu adulte, toi?
Bah ouais. Non, tu te rends pas bien compte. Voter, t'as un sentiment de fierté. Tu participes au monde. Tu donnes quelque chose de toi. À la société. Tiens, regarde. Je les ai toutes gardées. Regarde. Celle-là, alors ça, collector. 95. Les présidentielles et paf, un mois après, les municipales.
Ils sont super tes petits tampons de pain, mais bon, les vignettes Panini, c'est quand on est petit, faut grandir quand même. Hein. De toute façon, la France, c'est un pays mort. À peine tu veux réformer un truc, t'as tout le monde dans la rue. Moi, je me sens pas concerné.
Extrait de la série Fais pas ci, fais pas ça, diffusé sur France 2 en février dernier. Et trois invités aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse pour se demander comment parler politique aux enfants. Cécile Bourgneuf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération et aussi au Petit Libé, le supplément, disons, de Libération tous les mois consacré aux enfants. Pauline Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Mon Petit Quotidien, qui fait aussi mon quotidien, qui fait aussi actualité, mon actualité, hein, c'est
l'actu.
Ça l'actualité. L'actu, pardon. Pour les plus grands, on en reparlera, mais en tout cas des journaux destinés aux enfants de 5, 7, 10 et 14 ans et plus. Et puis nous sommes aussi au téléphone avec Sylviane Giampino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste et présidente du Haut Conseil à l'enfance et à l'adolescence. Ce qu'on vient d'entendre là dans l'extrait de la série « Fais pas ci, fais pas ça », c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'aller voter pour la première fois. Je ne sais pas si les unes et les autres, vous vous souvenez de cette première fois, mais c'est vrai, on se sent adulte à ce moment-là, Pauline Leroy.
Oui, c'est vrai, c'est le premier vrai acte de citoyen, même si nous, on considère qu'en fait, les enfants sont sans doute citoyens bien avant, mais d'une autre façon, sans forcément aller mettre un bulletin dans une urne. La conscience politique dont vous parliez tout à l'heure, elle est sûrement présente dès le plus jeune âge, parce que les enfants, en fait, ils font partie d'une famille, ils font partie d'une école, d'un club de loisirs, voilà. Et que du coup, cette vie en collectivité, forcément, leur fait prendre conscience de toutes les ficelles de la société. Et du coup, cela crée une conscience politique sûrement très précoce, en fait.
Cécile Bourgneuf, vous vous souvenez de ce moment où, pour la première fois de votre vie, autour de 18 ans sûrement, vous avez mis votre bulletin dans l'urne pour la première fois?
Oui, moi je m'en souviens très bien, ouais, bien sûr, c'est marquant. D'ailleurs, je me souviens aussi des moments où j'accompagnais mes parents qui allaient voter quand j'étais plus jeune. Et du coup, le jour où moi j'ai pu mettre le bulletin dans l'urne, pour moi, ça représentait quelque chose, effectivement, bien sûr. On sent à ce moment-là que on a le pouvoir et le droit de décider qui va nous représenter. Et c'est très important.
Vous aviez voté pour qui et pourquoi?
Ça
reste secret.
Ça reste secret.
Ça, c'est une grande question, Sylviane Giampino. Est-ce qu'on dit ou pas aux enfants pour qui on vote?
Ça, je crois que vraiment, les parents doivent juger ce qu'ils doivent en faire. Néanmoins, respecter le secret des urnes, c'est respecter une des règles de base de la démocratie. Donc, on peut le transgresser dans l'intimité, mais ça reste un élément important qui confère aux enfants vraiment le sentiment qu'il y a là un acte grave, symbolique, important et libre.
Donc, vous conseillez, vous, de garder le secret ?
Je conseille en tout cas d'attirer l'attention des enfants sur l'importance de ce secret des urnes.
Cécile Bourgneuf de Libération et donc du Petit Libé, c'est parfois difficile de parler politique aux adultes, surtout en ce moment, avec ces frontières qui se mélangent, ce clivage gauche-droite qui semble disparaître. Mais alors, comment fait-on quand on est confronté aux enfants ?
C'est encore plus difficile. C'est vrai qu'effectivement, enfin nous, c'est le pari qu'on fait, c'est d'expliquer l'actualité des grands aux enfants. C'est vrai que déjà pour les adultes, c'est pas toujours simple la politique. Donc comme vous disiez, pour les enfants, ça l'est encore moins. Surtout si les parents n'ont pas forcément les clés pour leur expliquer parce que eux-mêmes ne comprennent pas bien. Donc ils n'ont pas les mots simples pour expliquer tout ça. Je pense que il faut être simple quand on explique la politique aux enfants. Il faut dire que c'est ce qui régit toute notre vie en fait. Pour les enfants, on peut leur dire que c'est par exemple toutes les décisions qui sont prises même par exemple à l'école, c'est-à-dire l'emploi du temps par exemple des enfants. Tout ça, c'est une décision politique. Avoir un nouveau skatepark dans la ville, c'est une décision politique. Le menu à la cantine, c'est une décision politique. Enfin voilà. Donc tout ce qui nous entoure, c'est une décision politique, c'est notre bien commun. Et c'est comme ça qu'on peut leur expliquer. C'est, voilà, ça nous concerne dans notre vie de tous les jours. Après, comment leur expliquer ce qu'est la droite et la gauche ? Pour ça, il faut avoir des mots simples et essayer d'être le plus impartial possible parce que c'est compliqué. En plus, en tant que parent, quand on a un avis politique.
Eh ben, allez-y. Enfin, c'est pas la question piège, mais simplement, faites-nous aujourd'hui la distinction entre la droite et la gauche.
Bah, la distinction, c'est qu'on peut dire que on a fait un numéro justement du petit livre.
Je ne crois pas en traître, je sais que vous avez fait un numéro. C'est pour ça que je me permets quand même de vous poser la question.
Oui, voilà, on a fait un numéro sur qu'est-ce que la droite et la gauche, parce que c'est vrai que les enfants, quand on les rencontre, on se rend compte que ils ont tout le temps cette question qui ressort. C'est quoi la droite et la gauche ? Ils comprennent pas, en fait. Voilà. Et donc on leur explique, la droite, c'est une notion de liberté de l'individu, c'est quand même l'individu qui prime sur la société.
C'est mais déjà, la notion liberté, individu, tout ça, c'est compliqué pour des enfants.
Oui, mais on peut dire la liberté d'une personne. Par exemple, on va encourager quelqu'un à créer son entreprise. Enfin voilà, on peut trouver des mots plus simples aussi pour expliquer ça. Alors que à l'inverse, la gauche défend des valeurs d'égalité, de solidarité. Et donc, pour la gauche, il faut que l'État intervienne davantage, alors que la droite estime que l'État a moins à intervenir pour permettre à l'individu d'exercer sa liberté.
Nous sommes aussi au téléphone avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Seine-et-Marne.
Et oui, c'est
ça. Bon, vous-même, vous êtes confronté en tant que père à l'éducation politique de votre fille. Comment vous y prenez-vous ?
En fait, moi, j'ai adopté la même position que pour la religion, éventuellement. C'est-à-dire que je n'essaie pas de les orienter. Mais je sais que pour ma fille, avec laquelle je suis en ce moment, qui a 15 ans, je lui explique qu'elle peut voter pour qui elle veut, évidemment, mais qu'elle doit faire une sélection en fonction des partis politiques qui, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, frappent les journalistes. Et je lui explique que la...
Il y en a beaucoup en ce moment. La sélection va être vite vue, alors.
Déjà exclure les partis qui s'expriment par la force, en fait. Moi, j'essaie de lui transmettre la discussion, le dialogue, et je lui dis quand les partis politiques ne sont pas d'accord avec les journalistes et qu'ils les frappent, c'est comme ça que ça dérape et c'est comme ça qu'on finit en dictature. Et personne ne peut me dire le contraire.
Mais est-ce que vous avez la sensation, même si vous prenez vos précautions pour ne pas trop l'influencer, que malgré tout, votre fille, si elle pouvait voter, voterait sensiblement comme vous ?
Je pense. Je pense parce que lorsqu'on regarde des émissions où il y a des déclarations d'hommes politiques ou des analyses, on en discute ensemble. Donc forcément, je lui donne mon avis. Et elle me donne aussi forcément le sien. Mais dire qu'elle ne sera pas influencée par mon jugement, ça serait peut-être pas honnête de le dire. Mais je discute avec ma fille comme je discuterais avec une autre personne qui serait opposée à mes opinions. Je lui parle de ce que je ressens et de ce avec quoi je suis d'accord.
Ben merci Stéphane de nous avoir appelé à 01 45 24 7000 au standard de Grand Bien Vous Fasse. Et rassurez-vous, je pense que tous les parents, en tout cas 75% des enfants voteraient s'ils le pouvaient comme leurs parents. Donc vous n'êtes pas le seul, Stéphane. Sylviane Giampino, présidente du Conseil à l'enfance et à l'adolescence, et également psychologue et psychanalyste, vous vouliez réagir ?
Oui, je trouve que ce qui est important et que souligne bien Stéphane, c'est d'introduire les enfants à la notion de débat. La politique, ça sous-entend d'être capable de discuter et de s'informer
avec des gens qui ne sont pas d'accord avec les a priori que l'on a déjà. Or, vous le savez, des journaux comme ceux représentés à l'antenne aujourd'hui, ça c'est formidable, mais les enfants, très tôt et de plus en plus tôt, se nourrissent aussi sur des réseaux sociaux, etc., où on est entre soi. Et leur inculquer finalement ce mécanisme de base, accord, désaccord, synthèse et point de vue personnel ensuite, c'est un raisonnement qui va permettre qu'ils aillent chercher ailleurs que dans leur premier cercle des termes ou une réflexion qui sera plus démocratique. Et puis je voudrais aussi revenir sur le fait qu'on pense que la politique c'est de la décision, et là les enfants se sentent plutôt impuissants. Mais la politique, c'est aussi de l'action. Et il y a des actions politiques, citoyennes, qui sont à la portée des enfants. Et en France, on est très très faible là-dessus. C'est un peu dommage, parce que ça s'apprend en marchant, la politique, la conscience politique.
Cécile Bourgneuf de Libération nous rappelait justement tout à l'heure que le skatepark en bas de chez soi, c'est aussi une décision politique. Comment parler politique aux enfants sans leur imposer nos choix, hein? On est preneur de vos solutions. Comment vous évoquer avec eux ces élections? Un téléphone 01 45 24 7000, une adresse mail grandbienvousfasse@radiofrance.com, puis le compte Facebook de l'émission et bien sûr Twitter avec le hashtag grandbienvousfasse. Si avec ça on n'arrive pas à discuter entre nous, à être d'accord ou pas d'accord, il est 10h19 et vous êtes bien sur France Inter.
Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, on ne transforme. On ne transforme pas l'acier en étain, l'acier en étain. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie pas. L'écorce du chêne tient. L'écorce du chêne tient, l'écorce du chêne tient. Puis soudain, soudain, crac, crac. Ne me change pas.
Extrait du nouvel album de Mesparo, Ne me change pas, c'est sur la playlist de France Inter. Et merci à toute l'équipe de Grand Bien vous fasse, Clara Mario, Laure Grand Besançon, Jérôme Boulet, Lorraine Bess, Samuel Mesguiche qui est notre stagiaire en ce moment, et à la technique aujourd'hui, Mehdi Fatah et Julien Michel.
Grand Bien vous fasse, Thomas Chauvineau.
Comment expliquer la politique aux enfants aujourd'hui dans Grand Bien vous fasse sans, bien sûr, leur imposer nos choix avec trois invités, la psychologue et psychanalyste Sylviane Jeanpinault, qui est également présidente du Conseil à l'enfance et à l'adolescence, Cécile Bourgneuf de Petit Libé et Libération, et puis Pauline Leroy, rédactrice en chef adjointe de du petit quotidien, le petit quotidien des journaux pour tous les deux destinés aux enfants. Je voulais vous poser cette question, Sylviane Jeanpinault. J'imagine qu'on ne dit pas la même chose à un enfant de 5 ans et à un enfant de 13 ans. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à eux de la même façon.
Absolument. Je crois qu'il faut vraiment prendre soin de ce que j'appelle l'enfance des enfants. pour grandir, les enfants doivent vraiment avoir confiance en leur famille, en leurs éducateurs, mais aussi à une sorte d'ordre du monde où il y aurait de la cohérence, de l'intelligence et de la justice. Et toute la difficulté, c'est premièrement de faire attention à ce que l'on dit en présence des enfants. Quand on discute entre adultes, on ne fait pas toujours attention. Et quand on lance des anathèmes qui dévalorisent les grandes figures qui représentent la loi, la règle, l'État devant des enfants de moins de 10-12 ans, eh bien, ça les déstabilise un peu, ça insécurise. Donc il faut prendre soin de faire attention à ce qu'on dit devant eux, et surtout, si l'on a parlé devant eux, se tourner vers eux quand on le peut, et leur dire, tu sais, là je suis un peu énervée parce que je ne suis pas d'accord avec ce que fait telle personnalité politique ou tel candidat, mais c'est important, un président de la République, un sénateur, un député, un maire, c'est-à-dire bien leur resituer le fait que ces personnes-là sont censément garantes de la légalité, de la probité et de l'intérêt général. On parlait tout à l'heure de l'importance des valeurs, mais les valeurs, c'est d'abord signifier aux enfants qu'on doit a priori accorder de la confiance aux institutions. Et ensuite, on peut avoir un point de vue critique des désaccords. Et ça, évidemment, c'est important avec les plus grands.
Et c'est pour ça que il y a mon quotidien, le petit quotidien et l'actu que vous sur pourquoi vous travaillez les journaux pour lesquels vous travaillez, Pauline Leroy.
Oui, et
donc,
nous
journaux pour les 5-9 ans, puis 9-14, puis plus de 14.
Oui, et je pense que l'éducation à la politique, elle est pas forcément tout de suite idéologique. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de politique en parlant un peu de politique au sens du monde des partis et de l'idéologie. Il y a aussi tout simplement la politique au sens noble du terme, le politis d'origine. Et du coup, sur cette partie-là, il y a de l'éducation civique à faire. Nous, sur la tranche d'âge petit quotidien, nos lecteurs, ils ont 8 ans, on fait surtout de l'explication d'éducation civique. C'est quoi le président, ses pouvoirs, son rôle, ses relations avec les députés, le rôle du gouvernement, comment se passe une élection, c'est quoi un bureau de vote, c'est quoi voter blanc, voilà. Donc il y a tout ça qui est la première éducation pour moi à faire quand les enfants sont jeunes. Et plus ils grandissent, plus après ils se font une opinion politique au sens qu'on l'entend en adulte, c'est-à-dire avec une opinion plus partisane déjà.
Alors vos lecteurs ont 8 ans, mais d'autres lecteurs qui lisent par exemple l'actu, vous les confrontez à des questions qui sont presque des questions d'adultes, et ceux-là ont 14 ans. Par exemple, Marine Le Pen a-t-elle des chances d'être élue? Ou alors, à quoi servent les petits candidats? Des questions qu'on a pu lire dans les journaux dits pour adultes.
Bien sûr, à l'adolescence, au lycée, on est quand même tout près de l'âge où on va voter. Donc on est complètement conscient du débat politique, des forces en présence. Et il y a en effet, chez les lecteurs de l'actu, beaucoup d'intérêt pour comprendre le dessous des cartes, des candidatures, des petits candidats, du phénomène Front National, de toutes ces questions-là.
Notre reporter Antoine Lee, lui, a rencontré des enfants de 10-11 ans, Chloé, Valériane, Redouane, Yann, Méziane et Pierre, et ils ont parlé politique sur fond de Marseillaise revisitée.
Est-ce que vous trouvez qu'on parle bien de la politique aux jeunes?
Bah, pas trop.
Est-ce que vous avez des idées pour expliquer la politique de façon adaptée aux jeunes?
On pourrait l'adapter par exemple avec des schémas, des plans, par exemple expliquer ce que c'est la droite, ce que c'est la gauche.
Mais ces schémas, faudrait vous les montrer où?
À l'école.
Et pourquoi c'est pas fait?
Bah pas trop, parce que on rentre pas dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la politique? On travaille juste sur comment se déroulent les élections, mais on travaille pas sur la politique en elle-même.
Bah les bandes dessinées aussi, c'est bien. Parce que y a beaucoup d'enfants qui ne lisent pas.
Toi, ça t'intéresse la politique?
Je regarde des fois des débats, mais les débuts. Parce qu'après, je dois aller me coucher. Il y a des mots que je comprends pas. C'est des mots super durs à trouver dans le dictionnaire.
Et toi, tu comprends tout?
Il y a des choses que je comprends pas.
Comme quoi ?
Par exemple, avant, je ne connaissais pas la signification d'emploi fictif.
Pour toi, c'est important d'aller voter ?
Oui, comme ça, on peut avoir un président qu'on a choisi, enfin, s'il y a plein de gens qui se déplacent.
Et toi, tu comprends les gens qui ne veulent pas voter parce qu'ils ne savent pas pour qui voter ?
Non, je ne comprends pas parce que... Parce qu'après, ils vont manifester parce qu'ils ne sont pas contents de leur président.
Si on ne vote pas assez, bah, il n'y aurait jamais de président.
Et qu'est-ce que ça ferait un pays sans président ?
Bah, ce serait du grand n'importe quoi.
Ceux qui disent que ça ne sert à rien parce qu'ils sont, bah, ils sont nuls, bah, voilà. Si ça ne vous plaît pas, bah, sortez de la France. Allez, je ne sais pas, en Angleterre, parce que bah, eux, c'est de la monarchie. Si vous préférez, bah, allez en Angleterre, bah, voilà.
Toi, est-ce que président, c'est un métier qui te fait rêver ?
Ça me fait pas trop rêver parce que moi, déjà, de m'occuper de mes propres problèmes, j'y arrive pas. Alors, de m'occuper de toute la France et tout, c'est vachement compliqué.
Pour toi, c'est un métier difficile ?
C'est un métier très difficile.
Aussi, on est très suivi par les journalistes et les paparazzites.
Les paparazzides ? C'est soit les parasites, soit les paparazzis.
Voilà, plutôt les paparazzis. Du coup, c'est très embêtant.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire au prochain président de la République ?
Moi, j'aimerais vous dire que... fais des choses bien. Si t'as envie de faire des choses, propose-les. Et essaie qu'il y ait de l'égalité partout dans le monde. Et bonne chance.
Cécile Bourneuf du Petit Libé, il y a beaucoup de pertinence, presque aussi d'impertinence déjà, hein. Je ne connaissais pas le mot emploi fictif, je pense qu'il y a presque déjà du second degré là-dessus, mais aussi des vérités absolues qui font du bien entendre finalement dans la bouche de ces enfants.
Oui, on sent que certains ont déjà une petite conscience politique, quelque chose qui s'éveille, et puis on sent aussi qu'il y a parfois l'influence quand même des parents derrière pour certains, notamment celui qui parle des Français s'ils ne sont pas contents, qui peuvent aller en Angleterre. Mais c'est vrai que ce que disait la psychologue tout à l'heure, c'est difficile pour les parents de parler un peu juste entre eux en secret de politique, notamment s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe avec le gouvernement, etc. Moi, je pense que c'est quand même important qu'ils le fassent devant les enfants. Enfin, voilà, il ne faut pas se l'interdire. Après, effectivement, ce qu'elle disait, c'est que c'est bien d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord et pourquoi on a le droit de ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aussi avoir élu un représentant politique et finalement dire on n'est pas d'accord avec les décisions qu'il prend, on a droit de le dire, voilà, mais c'est pas parce qu'on l'a choisi que on doit être absolument d'accord avec tout. Et c'est bien d'éveiller les enfants à cette conscience politique là, à dire si on n'est pas content, on peut aussi manifester, signer des pétitions, voilà, on a un rôle à jouer en tant que citoyen.
Sylvaine Giampino.
Oui, je voulais revenir sur cet exemple du terme emploi fictif. On voit bien que autour d'une campagne électorale, il y a tout un enjeu de parole, du statut de la parole. Or, la vie des enfants est réglée par la parole. On leur demande d'être obéissants, on leur demande de respecter ce qu'on leur dit, de respecter leurs propres paroles, on leur demande d'être réglo quand ils prennent des engagements. Et du coup, des mots-clés comme « tu promets de faire un effort à l'école »,« tu t'engages à ceci »,
Il y a un respect de l'engagement chez l'enfant.
Tiens parole. Oui. On voit bien comment c'est très difficile aujourd'hui de maintenir ça avec des enfants qui ne cessent d'entendre dire qu'il y a des mensonges, qu'il y a... voilà. Donc, je trouve que la tâche des parents et des éducateurs est évidemment plus complexe. Et puis... Je rebondirai sur cette magnifique phrase de cet enfant en conclusion. Si tu as envie de faire des choses, propose-les. Encore faudrait-il que les adultes entendent ce que les enfants proposent.
On dirait presque du Kennedy dans le texte. Sur franceinter.fr et puis au standard 01 45 24 7000, ces messages qui nous arrivent. Alors Jacques, avec beaucoup d'ironie, nous dit, je ne sais pas si c'est de l'ironie ou de la perfidie d'ailleurs, « J'apprends à mon fils à détourner l'argent des crêpes, à mentir. Vu les exemples qu'on a en politique, il vaut mieux être préparé. » Judith qui nous dit « Avec mes enfants de 5 et 2 ans, ce qui est important, c'est de leur donner les armes pour se forger leurs opinions. Je ne suis donc pas neutre. Mon conjoint et moi sommes anarchistes. Je appliquent à leur apprendre à penser par eux-mêmes et à ne jamais oublier l'autre. Nous accueillons un réfugié à la maison depuis 3 mois et c'est chaque jour l'occasion d'échanger sur le partage, la générosité, l'empathie, la patience, la guerre et les conflits. Tout ce qui fera que demain, ils sauront se forger de solides bases pour être des citoyens avertis. Et puis ce message également de Patricia qui nous dit pourquoi partir du principe qu'il ne faut pas influencer nos enfants et leur imposer nos choix. Nous sommes aussi au téléphone avec Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Arcueil et alors vous avez une position plutôt radicale. Vous voulez donner le droit de vote aux enfants dès la naissance.
Oui, enfin, je m'étonne surtout qu'on n'ait jamais eu l'idée de mettre cette proposition à l'étude parce qu'elle me semble avoir un double intérêt, voire triple, un intérêt civique puisque ça nécessiterait de faire en sorte qu'on discute. Alors pour moi l'idée ce serait que le droit de vote aux enfants serait exercé par les parents évidemment jusqu'à leur majorité et que ça nécessiterait du coup d'avoir une discussion sur ce que voteraient les enfants via les parents au moins dans quand ils seraient en mesure d'être un peu plus mature au niveau des idées.
Mais comment vous feriez concrètement pour donner le droit de vote à des enfants, des bébés?
Ah ben, c'est les parents qui l'exerceraient en toute responsabilité, mais ça obligerait du coup les parents à, on va dire, seraient beaucoup plus impliqués dans l'idée que ils ne peuvent pas ne pas exercer un droit de vote pour leurs enfants qui pourraient leur reprocher plus tard. Donc ça met la pression d'une certaine façon, donc ça c'est le côté civique de cette proposition, ça met la pression sur les parents. Puis par ailleurs, il y a un côté politique, c'est-à-dire que dès lors que les jeunes parents sont quand même beaucoup plus intéressés par l'avenir de leurs enfants, les l'éducation, la culture, etc. Et donc ça irait équilibrer en fait les politiques qui devraient aller au niveau au moins des discours chercher des votes de gens qui voteraient davantage pour le futur que pour préserver leur rente de situation.
Mais merci Jean-Marc pour votre appel. On écoute à 10h34 sur France Inter un chanteur engagé et puis juste après on se demandera ce que feraient les enfants s'ils étaient élus président de la République.
Thomas Chauvineau sur France Inter.
Born in the USA.
1984, The Boss, Bruce Springsteen, Born in USA, évidemment.
Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Président de la République, qu'est-ce que tu voudras faire ?
Sauver les gens qui n'ont pas d'abri.
Les règles, elles sont strictes, hein. Pas de pollution, poubelle, c'est poubelle.
Que les voitures à pétrole n'existent plus.
Ça, ce sera cadré, surcadré, et puis voilà, quoi.
Que les usines ne rejettent pas des gaz.
Un président écolo, quoi.
Oui, être le président de la République.
Un extrait de « Si j'étais président » diffusé sur Radio Vel, une radio en ligne. Le titre de l'émission, c'est « Les enfants de la politique ». Trois invités aujourd'hui pour se poser cette question. Comment expliquer la politique aux enfants ? Sylviane Jean-Pinault, qui est psychologue, psychanalyste et présidente du Haut Conseil à l'enfance et à l'adolescence. Cécile Bourneuf, journaliste à Petit Libé et Libération. Et Pauline Leroy, rédactrice en chef adjointe du Petit Quotidien. Le Petit Quotidien, d'ailleurs, qu'a posé cette question à ses électeurs, à Pauline Leroy. Et vous, enfin, et toi, j'imagine que vous les tutoyez, qu'est-ce que tu ferais si tu étais président ?
Oui, on leur a posé la question et on a eu plus de 600 réponses. Donc, on a fait notre dépouillement et le thème qui revient le plus, c'est les thèmes de défense de l'environnement et des animaux. Donc, les enfants proposent, s'ils étaient présidents, donc, ils réduiraient la pollution, amélioreraient le tri des déchets, protégeraient davantage les espèces en voie de disparition, etc. Le deuxième thème, c'est la lutte contre la pauvreté et l'aide aux soins à domicile fixe. Et le troisième thème, c'est mieux accueillir les réfugiés en France.
Bon, ben, ça fait envie, on vote tout de suite alors, voilà, Sylviane Jean-Pinault. des thèmes qui sont évidemment propres et chers aux enfants, puisque c'est ceux qu'ils ont sous les yeux tous les jours. Est-ce qu'ils les révoltent aussi finalement ?
Oui, et surtout les enfants abordent la politique par ce qui est sensible. Là, pour le coup, sur la question des valeurs, pour eux, elles sont simples. On le voit bien. Ils disent aussi d'autres choses. Ils disent que, par exemple, ils voudraient pouvoir jouer davantage aux abords des écoles. Ils trouvent difficile de se séparer à la sortie de l'école comme ça. Ils voudraient que les trottoirs soient plus larges. Ils voudraient qu'il y ait des espaces, etc. Ils sont très sensibles aussi à la question de la mendicité quand ils voient d'autres enfants. Et puis, ils voudraient des villes en couleur. Donc, on voit bien comment le plaisir, la solidarité et la nature sont pour eux des valeurs qui ne sont pas contradictoires les unes avec les autres.
Cécile Bourneuf, vous rencontrez aussi, j'imagine, vos lecteurs. Est-ce qu'ils ont ce même appétit pour ces valeurs-là qu'on vient d'évoquer ?
Oui, bien sûr. Et puis, il faut savoir que les enfants, en fait, c'est très variable. C'est un peu, enfin, leur éveil à la politique. Ils ont forcément une conscience des sujets qui les touchent plus que d'autres. Et ensuite, il y a des enfants qui ont une curiosité énorme et un environnement familial qui fait qu'ils comprennent plus de choses et qu'ils ont plus de compréhension. Mais ensuite, c'est à nous, médias ou à l'éducation, de jouer ce rôle-là. Et comme disait Pauline tout à l'heure, de leur donner déjà la base de tout, c'est-à-dire cette éducation civique pour expliquer à quoi ça sert un président, à quoi ça sert de voter, qu'est-ce qu'une démocratie, etc. Donc, c'est essentiel de leur expliquer déjà la base des choses. Et ensuite, la conscience politique vraiment arrive petit à petit, parce qu'on a déjà les bases pour tout comprendre.
Sur franceinter.fr et puis également au téléphone, Isabelle par exemple nous dit d'Aubagne, mon fils connaît le nom des principaux candidats, il lui arrive de faire des dessins de François Hollande, il a 8 ans, on n'est pas militant mais on s'intéresse tout de même à la politique. Dominique se pose cette question, je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas transmettre des valeurs à nos enfants et donc une forme de choix politique. Je ne voudrais pas par exemple que mes enfants votent FN. Et nous sommes également au téléphone avec Cécile. Bonjour Cécile. Cécile de Gradignan, vous êtes avec nous ? Allô, allô ? Cécile n'est pas au téléphone avec nous. Eh bien, tant pis, nous avons peut-être Dominique alors au téléphone. Dominique ?
Oui, je pense. Oui,
bonjour,
d'accord.
Dominique.
Oui, bonjour. Oui.
Merci de nous appeler au 01 45 24 7000. Vous avez un souvenir assez précis, Dominique, d'avoir accompagné, oui, vous, votre, oui, grand-mère, pas vos parents, mais vos grands-parents qui allaient voter.
Oui. Oui, bah, ma grand-mère. En fait, c'était un jeu et c'était comme ça qu'on a mis peut-être le pied dans la politique et la vie citoyenne. C'est qu'en fait, on allait voter avec eux aux élections et en revenant, elle voulait pas nous dire ce qu'elle avait voté, et on regardait dans ses poches les bulletins qu'elle avait ramenés, qu'elle n'avait pas employés, pour savoir lequel manquait, et du coup, savoir ce qu'elle avait voté.
Par élimination, donc.
C'est l'anecdote. Oui, et alors après, quand moi, mes enfants, j'ai eu des enfants, eh ben, je les emmenais aussi aux élections, dans mes bras, et souvent, ben, je faisais en sorte que ce soit mon gamin qui mette le bulletin dans l'urne. Parce que ça lui apprenait que voilà, on avait un choix à faire et qu'on était dans la queue, on discutait les uns les autres, qu'est-ce qu'on allait voter, etc. Et après, ils voyaient comment on faisait. Et ça les a familiarisés avec le vote, etc. Quoi.
Et moi,
je pense, pour terminer, excusez-moi, une valeur importante après pour quand on est ado, c'est de montrer qu'il y a une différence entre ce que les gens disent au niveau des élections, et c'est encore le cas cette année, et ce qu'ils veulent faire. Et je pense que tout l'esprit critique que vous avez développé, que vos intervenants montrent comme quelque chose de très important, je suis à fond d'accord. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout l'art de la parole, c'est très important, mais quand il s'agit de manipuler les gens, les élections, c'est aussi une occasion de manipulation. Et donc, je dirais l'esprit critique et l'esprit, l'ouverture à la vie citoyenne, c'est de décrypter les choses, et de faire en sorte que le programme, c'est hyper important de montrer aux enfants que ce qui compte, c'est plus ce qui est écrit que ce qui est dit. Parce que aujourd'hui, on entend des candidats qui parlent, mais qui ne disent pas vraiment la vérité sur ce qu'ils sont ni sur ce qu'ils veulent faire. Donc, il faut montrer les contradictions. Voilà.
L'importance de la parole donnée. Merci Dominique de nous avoir appelé aujourd'hui. Je rappelle le numéro de téléphone du standard 01 45 24 7000. Pauline Leroy, c'est vrai que y a eu les affaires, on en a beaucoup entendu parler, et il faut aussi les traiter, montrer aussi que il y a certes les institutions qu'il faut décrypter, mais montrer que la politique, en effet, c'est parfois une parole qui n'est pas respectée.
Oui, et puis il faut expliquer ce qu'est une campagne électorale, que justement, on vend des idées, qu'on fait des promesses, qu'après, la vie politique, elle est plus compliquée, qu'il y a des contraintes, des choses imprévues qui se passent. On a essayé de l'expliquer. Les enfants ne sont pas dupes. Je pense qu'ils sont complètement conscients que dans la vie politique, comme partout, il y a du mensonge, il y a de la vérité, il y a des gens bien, des gens pas bien. C'est assez facile, même dès 8 ans, de prendre conscience de ça.
Sylvaine Giampino, vous qui êtes psychologue et psychanalyste.
Je raccroche.
Allô ? Sylviane Giampino ? Allô ? Bon, nous n'avons pas Sylviane Giampino et Cécile Bourneuf sur cette idée justement des affaires. Comment à la fois en parler, parce qu'il faut en parler, sans non plus susciter le rejet de la politique chez ces jeunes électeurs qui n'ont même pas encore mis leur bulletin dans l'urne.
C'est ça qui est compliqué, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de dégoût des politiques de la part des électeurs. Et donc si dès le plus jeune âge les enfants entendent parler de ça, est-ce qu'ils vont aller vraiment voter pour la première fois à 18 ans, c'est pas si évident parce qu'ils vont se dire, bon, de toute façon, on nous représente pas, on élit des gens et ils votent, et ils les appliquent pas ce qu'ils avaient promis de faire. Bon, c'est vrai que c'est bien, enfin, je pense qu'il faut quand même développer leur esprit critique.
Et comment
vous
faites pour l'évoquer dans le petit Libé ?
Alors, nous, on en a parlé, mais on en a parlé rapidement. Disons qu'on a fait un dossier sur la présidentielle et que à chaque fois, on commence chaque dossier par l'actualité. Et là, l'actualité, c'est évidemment la présidentielle, mais c'était aussi les affaires d'emploi fictif, François Fillon, Marine Le Pen. Donc, on en a parlé parce qu'il faut en parler. Et après, on dit que c'est des emplois présumés fictifs, et qu'on en parle et que les candidats nient ce qui s'est passé. Voilà. Mais il faut en parler, parce que ne pas en parler, ça serait suspect aussi.
On a retrouvé Sylviane Giampino qui a rechargé, je crois, son téléphone, psychologue et psychanalyste. Sur ce rapport, sur cet exemple que doivent, en effet, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, montrer les hommes et les femmes politiques de ce pays et la distorsion que les enfants peuvent faire se percevoir quand il y a, malheureusement, ce qu'on appelle des affaires.
Oui, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu à essayer de convaincre un jeune adulte qui ne veut pas aller voter de l'importance de voter, quand ils vous répondent que pour eux, voter, c'est pas devenir adulte, mais c'est être l'otage d'un système, c'est accepter d'être manipulé, etc. La discussion est rude. Hein. Et donc ça,
c'est le point quand même clé qui est que à la fois il y a le discours qu'on tient, l'information qu'on donne, et puis comment les aider à déconstruire la pensée qu'ils se sont forgée eux-mêmes quand ils veulent montrer qu'ils sont adultes et qu'ils veulent être adultes différemment que ces mauvais modèles qu'ils rencontrent sur leur chemin. Moi, j'ai pas la réponse, mais je trouve qu'il faudrait vraiment qu'on y réfléchisse. La question de l'exemplarité, elle est centrale, et elle est centrale sur les hommes et les femmes qu'ils vont devenir.
Mmh. 10h48 minutes sur France Inter. On écoute Drake et puis ensuite on voit pourquoi on a en général voté comme nos parents.
Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now, they keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no.
Le rappeur canadien est très à la mode, Drake, et ce titre très naturaliste, Passion Fruit. Vous êtes bien sur France Inter et vous avez raison.
France Inter, grand bien vous fasse.
Comment parler politique aux enfants sans leur imposer nos choix? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec la psychologue et psychanalyste Sylviane Giampino, avec Cécile Bourneuf qui est journaliste au Petit Libé, Pauline Leroy qui est rédactrice en chef adjointe du Petit Quotidien, et puis vous également, hein, ces messages qui continuent de nous arriver. Véronique nous dit « Depuis l'âge de 7 ans, mon fils a créé sa propre carte électorale quand il était petit. Je l'ai éduqué à avoir une conscience politique. Il vote ce qu'il veut, mais il votera la première fois cette année. » Ça fait quelque chose, j'imagine, de voir ses enfants fermer le rideau de l'île Zoloire. Karine qui nous dit « En tant qu'enseignant, on fait notre métier, on explique les problématiques, les partis, la vie politique. Mes terminales sont très mobilisées et vont aller voter. » Et puis nous sommes aussi au téléphone avec Cécile. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Gradignan pour nous raconter que dans votre couple, les avis étaient divergents.
C'est ça. Le papa, mon fils, avait des idées d'extrême droite. Et donc, avec mon fils qui, à l'époque, avait 10 ans, c'était compliqué parce que je ne pouvais pas laisser passer certaines discussions. Donc, moi, je suis de gauche. Et c'était parfois houleux, mais j'avais besoin que les choses soient rétablies.
notamment par rapport à son éducation. Donc, souvent, il s'est longtemps identifié à la vie de son papa, donc à son papa. Pour cet âge-là, c'est très important. Et maintenant, il va avoir 19 ans, il va voter pour la première fois, voilà. Et ses opinions ont changé, et il se rend compte qu'à l'époque, il était influencé par ce discours-là.
Sortir de l'influence. Hein. Merci Cécile de votre témoignage. Sylviane Giampino, vous êtes donc psychologue et psychanalyste. Hein. Il y a une enquête du CEVIPOF qui est un peu vieille, mais enfin qui raconte quand même beaucoup de choses. Elle date de 2007. Mais en 2007, on se rend compte qu'une immense majorité des jeunes embrassent les idées politiques de leurs parents. Je pense que c'est pareil 10 ans plus tard. Hein. 75% des jeunes embrassent les idées politiques de leurs parents.
Oui, mais on fait toujours très attention aux gens qui votent ou aux gens qui ont l'intention de voter. Je trouverais très intéressant qu'on travaille autant sur ceux qui ne votent pas et ceux qui ne savent pas quoi voter. Moi, je crois que parmi les abstentionnistes, il y a des gens qui ne veulent pas voter parce qu'ils sont en conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'ils voudraient voter différemment de ceux qu'ils aiment. Ils ne veulent pas voter pareil, mais ils ne veulent pas voter contre. Et certains d'entre eux s'abstiennent. Après, ils argumentent avec des tas de rationalisations. Mais c'est vrai que les parents, les gens qu'on aime, les gens qui comptent, les éducateurs, les enseignants, les modèles, il est quand même normal que ça influence les jeunes. Sinon, alors, qu'est-ce que ce serait que d'éduquer des enfants ?
Mais ça veut dire qu'il n'y aurait que deux options, soit finalement l'adhésion, soit au contraire le rejet ?
Mais je crois qu'il y a vraiment une période de la vie dans laquelle on a besoin de se distinguer de ses parents, de ses tuteurs. Et c'est sain parce que quelques années plus tard, évidemment, on va voter peut-être en s'inspirant de ses racines familiales et éducatives, mais au moins on aura eu un temps où on se sera ressaisi de sa propre liberté, de son sens critique, de son libre arbitre.
On sait que le père de François Hollande était très à droite.
Par exemple.
Vraiment très à droite. Quand le petit François lisait Pif Gadget dans sa chambre, sûrement, le père lisait plutôt les écrits de l'OAS.
Ben, on voit que c'est pas simple, longtemps après.
Pauline Leroy, rédactrice en chef du Petit Quotidien, vous recevez régulièrement vos électeurs, qui d'ailleurs parfois fabriquent le journal un peu à votre place, hein, finalement. qu'est-ce qu'ils vous disent de cette ambiance particulière en ce moment en France avec cette élection ? Comment ils l'aperçoivent, ces enfants ?
Nous, on leur a demandé de nous poser des questions, et c'est vrai que la question, elle revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des enfants qui disent pourquoi les présidents ne font jamais ce qu'ils ont promis. Je pense que en effet, les enfants ont bien conscience qu'il y a une atmosphère particulière, qu'en campagne, il peut y avoir du mensonge et que la promesse n'est pas toujours tenue une fois qu'on est au pouvoir.
Et alors, qu'est-ce que vous leur répondez ?
J'ai pas encore reçu la réponse, mais ça va être... Oui. Non, mais je pense que ça fait partie de l'éducation générale de la vie, qu'en effet, on ne peut pas toujours tenir les promesses qu'on fait. Après, je pense que c'est un peu comme tous les sujets, il ne faut pas faire d'amalgame, pas créer une méfiance totale auprès des enfants. Enfin, y a des gens très bien en politique, il faut aussi le rappeler. Je pense que c'est important de donner toutes ces informations-là sur... on peut respecter ses promesses aussi en politique. Il n'y a pas que des menteurs, quoi.
Cécile Bourneuf,
Je pense qu'en fait, les enfants, c'est bien de leur expliquer ce qui se passe en ce moment. Nous, quand on les rencontre, il y a quand même une question qui revient souvent, c'est pourquoi on entend autant parler de Marine Le Pen ? Est-ce que Marine Le Pen peut devenir présidente ? Alors qu'elle est raciste. Ça, c'est des propos qu'on a pas mal entendus.
Qui sont les propos tenus par les enfants.
Par les enfants.
Ce
sont les enfants qui nous disent ça. Alors, c'est à nous, là, pour le coup, vu qu'on se veut le plus objectif possible, le plus impartial possible, de dire, tant qu'elle tient des propos qui sont légaux, qu'elle a le droit de les tenir, ces propos-là, elle peut dire ce qu'elle veut. Et que c'est le principe de la démocratie, d'être représenté par des partis très divers, et que c'est une chance en France aussi d'avoir des partis très différents, donc on n'est pas en Corée du Nord ou en République populaire de Chine.
Et tant qu'on reste dans le cadre de la légalité finalement.
Exactement.
Sylviane Giampino, peut-être le mot de la fin, parce que nous arrivons au terme de l'émission.
Bah, je voudrais juste rappeler qu'il y a des enfants qui font de la politique, qui sont dans des conseils municipaux d'enfants, dans des conseils départementaux, et dans le conseil que je préside, 12 enfants ont été nommés et siègent. Donc on devrait pouvoir y arriver, il faut s'en donner la peine.
Vous voulez dire qu'il faudrait donner plus la parole aux enfants dans la vie politique ?
Oui, plus participants.
Mais comment on ferait concrètement ? Parce que c'est compliqué.
En fait,
on abaisse quoi, la limite d'âge pour aller voter ?
Non, ce que je veux dire, c'est que quand des enfants participent à des conseils municipaux dans des villes, et que leur point de vue est pris en compte, et quand il y a des projets qui sortent de ce que les enfants proposent, et qu'on leur demande de suivre les projets, ils accompagnent dans la réalité ce qu'ils ont proposé, à ce moment-là, on forge une pensée politique qui est à la fois une pensée, mais aussi derrière de l'action à laquelle on contribue.
Dès le plus jeune âge. Bah, merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous en ce mercredi 12 avril, donc en kiosque sur Internet, le Petit Libé, le Mon Quotidien ou le Petit Quotidien sur abonnement. Demain, on se retrouve avec cette question. Sommes-nous en train de vivre une crise du temps ? Est-ce que tout va trop vite ? Et vous pouvez déjà nous laisser votre avis sur franceinter.fr.